Vous écoutez RFI, il est 4h30 en temps universel, 5h30 à Kinshasa. Et c'est le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
De l'Est de la RDC prennent position contre l'état de siège.
Ces 5 députés qui disent même vouloir, par une loi, faire cesser cette mesure qui, depuis 3 ans, donne des pouvoirs étendus aux militaires, mais qui, selon eux, montre son inefficacité. Vous entendrez leurs arguments dans un instant. Dans ce journal également, la Centrafrique, où l'on continue de dérouler notre enquête sur la désinformation menée par Wagner. Aujourd'hui, la fabrication d'une fake news pour couvrir une bavure des mercenaires russes. Reportage en Afrique du Sud, avec les femmes de l'ANC, le parti présidentiel, remontées contre les vendeurs informels de nourriture, accusés d'avoir provoqué des centaines d'intoxications alimentaires, dont une vingtaine mortelles ces derniers mois. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Sofiane Amazian. On parlera basketball, début aujourd'hui d'un tour de qualification pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Les militaires ont largement assez à faire en se concentrant sur les affaires militaires. Voilà ce que disent en substance 5 députés de l'Est de la RDC qui prennent position contre l'état de siège. Cette mesure qui, depuis bientôt 3 ans et demi, donne des pouvoirs étendus aux militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au détriment des autorités civiles et officiellement pour mieux lutter contre les groupes armés. Mais aujourd'hui, alors que la mesure a été renouvelée pour la 85e fois en ce mois de novembre, 5 députés de Bounia, du Lubero, de Boutembo et du Massissi disent stop. Pour Gratien Irakan, qui est élu à Bounia, il est temps de s'organiser autrement.
Nous voulons justement obtenir un autre résultat, parce qu'avec l'état de siège, on connaît déjà un résultat qui ne satisfait vraiment pas la population congolaise. Et donc, si on réqualifie ou on lève pratiquement l'état de siège, en donnant cette chance aux militaires de pouvoir se focaliser, se concentrer sur les opérations militaires ensemble avec les alliés, parce que vous savez qu'il y a des opérations en cours contre les ADF avec l'allié ougandais, le UPDF, il y a d'autres opérations en cours au Nord Kivu. Donc, nous pensons qu'on peut redéfinir autrement les résultats que nous avons eus avec l'état de siège et qu'on puisse réhabiliter les autorités civiles. Et donc, on pense qu'on peut mettre fin à l'état de siège par une loi. C'est ce que nous sommes en train de proposer.
Le député congolais Gratien Irakan, joint par Alexandra Branjon. À la République démocratique du Congo, où après le saccage du mausolée de Patrice Lumumba à Kinshasa dans la nuit de dimanche à lundi dernier, les autorités font savoir que 6 personnes ont été arrêtées et le ministre de l'Intérieur assure que 2 autres sont actuellement recherchées. On n'en sait pas plus ce matin. Au Kenya, la réponse du président William Ruto lors de son discours sur l'état de la nation hier à Nairobi. Réponse à l'opposition et à la société civile kényane qui dénonce la multiplication des enlèvements et des disparitions forcées ces derniers mois. Mais pour le chef de l'État, tout peut s'expliquer. À Nairobi, Gaël Lalex.
Le rapport annuel de la Commission nationale kényane des droits de l'homme recense plus de 74 cas de disparition entre juin et novembre. Pour William Ruto, ce chiffre peut parfaitement s'expliquer.
Nombre de ces affaires ont été résolues et d'autres se sont révélées être de fausses informations. Aussi, une bonne partie de ces soi-disant personnes disparues ont en réalité été arrêtées par la police. Dans ces cas, les suspects ont été dûment remis à la justice. Je condamne toute action extrajudiciaire qui met la vie et la liberté de qui que cela soit en danger.
Des propos qui paraissent à certains très cyniques. Samedi encore, l'opposant ougandais Kizza Besigye, en voyage à Nairobi, a mystérieusement disparu avant d'être présenté quelques jours plus tard devant une cour militaire à Kampala. Bernard Mogessa, président de la Commission nationale kényane des droits de l'homme.
C'est très malheureux que des Ougandais puissent être arrêtés sur notre territoire, disparaître et qu'aucune information à ce sujet ne soit rendue publique. Jusqu'ici, aucune action n'a été prise contre les responsables de ces arrestations et des morts qui s'en suivent. Cette responsabilité revient au commandant général de la police.
La Commission nationale kényane des droits de l'homme a enregistré plus de 1300 arrestations illégales cette année. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
RFI 5h35 à Bangui. De quoi parle-t-on précisément quand on parle de fake news du groupe Wagner? C'est ce qu'on vous propose de comprendre ce matin avec notre enquête débutée hier avec le collectif Forbidden Stories et avec le témoignage d'Ephrem Yaliké en février 2022, alors qu'il travaillait pour le compte de la communication du groupe russe. Il lui a été demandé de couvrir une bavure des mercenaires envoyés par Moscou et de publier un article accusant un groupe armé local d'avoir attaqué des peuls à boire dans l'ouest de la Centrafrique.
La manière à laquelle l'interprète leur demande de me parler et pour qu'ils puissent m'interpréter, étant journaliste, je savais que c'était pas concrètement ce que ces peuls sont en train de lui dire qu'il est en train de me transcrire. Donc, je prenais note de tout ce qu'il me disait. Et quand on est dans l'avion avec lui, j'ai dit, Michel, tu penses réellement que c'est des 3 heures qui ont fait du mal? Il me regarde longtemps et me dit, ok, ce que je te dis, ça doit rester confidentiel entre nous. Certains de nos confrères les ont attaqués, c'est après qu'on s'est rendu compte que c'est des innocents et donc tu dois tout faire pour que l'article soit positif à notre égard. Un mois plus tard, la vraie information est sortie dans un journal. Et à ma grande surprise, il m'appelle, je suis devant, il me conduit quelque part, je ne savais même pas là où on partait. Et on dépasse le K26 maintenant, il s'arrête. Il me dit, je vais te poser une seule question. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire la vérité à ces journalistes qui ont dévoilé l'information? À ce moment, il dépose son arme à côté. Il m'a menacé, il dit, tu dois l'avouer, il n'y a personne ici. Toi-même, tu sais ce qui peut t'arriver. J'ai dit, Michel, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas fait. Parce qu'il me dit, en quittant, tout ce qui vient de se passer ici, mets-toi en tête que nos services secrets sont désormais derrière toi. Si on écoute un seul instant que tu as été menacé, rassure-toi que tu ne seras pas vivant.
Et cette enquête plongée dans la machine de désinformation russe en Centrafrique, c'est un long article publié chaque matin sur RFI.fr. Aujourd'hui donc, le montage de cette fake news autour d'une bavure des mercenaires russes. Demain matin, l'organisation sur place du groupe Wagner, les hommes, les moyens ainsi que les cibles. Dans l'actualité du continent africain ce matin également, ces tirs entendus hier soir à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, heurts autour de la résidence du général Akol Korkouch, ex-chef des services de renseignement, démis de ses fonctions le mois dernier. D'après le porte-parole de l'armée, 2 militaires ont été blessés et il évoque un malentendu entre ces militaires et la protection personnelle de l'ex-maître espion. Le Mali, et c'est le général Abdoulaye Maïga qui devient Premier ministre en remplacement de Choguel Maïga, démis de ses fonctions avant-hier. Abdoulaye Maïga, qui était jusqu'alors ministre de l'administration territoriale. En Afrique du Sud, les autorités viennent de classer catastrophe nationale, la crise d'intoxication alimentaire qui touche le pays depuis quelques semaines. Il faut dire que depuis le début du mois d'octobre, ce sont au total une vingtaine de jeunes qui en sont morts, plusieurs centaines d'autres hospitalisés, la plupart visiblement après avoir consommé de la nourriture achetée dans des petits magasins informels. Depuis, le président Cyril Ramaphosa a ordonné une campagne d'inspection, mais il y a les consignes officielles d'une part et les initiatives individuelles ou collectives de l'autre. À Tshwane, par exemple, au nord de Johannesburg, la Ligue des femmes de l'ANC, le parti présidentiel, a décidé d'aller vérifier par elle-même si les vendeurs ambulants avaient bien toutes leurs autorisations. Reportage de Valentin Hugues.
La Ligue des femmes de l'ANC se regroupe en chanson. Gilets verts et jaunes sur le dos.
On chante pour appeler toutes les femmes à se lever car nos enfants sont tués et intoxiqués.
Depuis les récents cas d'empoisonnement, de nombreuses villes ont interdit la vente ambulante aux abords des écoles. Mérine Guéma, responsable de l'association des vendeurs informels.
Nos vendeuses n'ont plus le droit de travailler devant les écoles. Mais c'est la vente illégale qu'il faut combattre, pas nous.
Pour mettre fin à la vente illégale, ces femmes en colère arpentent la ville et interpellent tous les vendeurs de nourriture.
On vérifie les dates de péremption et j'ai l'impression que certains produits n'en ont pas.
Noctula Naba mène cette action coup de poing. C'est la secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'ANC.
On ne peut pas rester silencieux, ce sont nos enfants. On ne veut pas les voir mourir, on se battra jusqu'à la fin. Tu occupes tout le trottoir du coin de la rue, là, illégalement. Pars et dis bien à tes patrons qu'on est venu te voir.
Le groupe qui déambule dans les rues n'hésite pas à encercler les stands et à filmer leurs propriétaires, à qui elle demande une autorisation officielle de vendre. Une action qui choque cette commerçante.
Toutes ces femmes autour de moi, elles n'ont pas à me parler comme ça. Je suis tellement en colère. Je travaille juste pour que ma fille puisse aller à l'école.
Le président Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation à ce sujet. Il a ordonné à tous ces magasins informels de s'enregistrer officiellement auprès de leur ville d'ici un mois. Valentin Hugues, de retour de Tshwane, RFI.
à Madagascar. C'est pour le moment juste un projet de loi, mais il fait bondir les représentants du secteur du transfert d'argent par téléphone. Au début de la semaine, les députés ont présenté un projet de taxe de 0,5% qui toucherait les transferts de plus de 150 000 ariars, environ 20 000 francs CFA. L'État ainsi compte augmenter ses ressources, mais pour les entreprises du secteur, ce serait à la fois pénalisant pour les usagers et contre-productif. Antananarive, Pauline Le Troquier.
L'annonce a secoué le monde du mobile money à Madagascar, un secteur qui n'avait connu en 10 ans que la prospérité et la croissance de ses abonnés portés à 23 millions en 2024 contre 3 millions en 2014. D'une seule voix, les opérateurs préviennent alors, une telle entrave aux activités de transfert d'argent ne fera que freiner les recettes fiscales que l'État espérait accroître au bénéfice de l'investissement public. Louis Favreau, directeur général de Mvoul.
Quand on regarde l'ensemble des pays africains qui se sont lancés dans une telle mesure, juste après l'introduction de cette taxe, il y a une chute brutale de l'activité de mobile money, de l'ordre de moins 40 à moins 60%. Elle engendre moins de transactions et donc moins de TVA et moins de revenus fiscaux et de recettes fiscales pour l'État.
En plus de son inefficacité fiscale, les acteurs du secteur anticipent des risques sécuritaires et économiques associés au retour à l'argent liquide, à l'économie informelle et à une perte directe du pouvoir d'achat des ménages, explique encore Louis Favreau.
Un transfert de 250 000 ariars qui correspond au salaire minimum. Aujourd'hui, il coûte 1200 ariars. Demain, il va coûter aux consommateurs 2450, deux fois plus. Donc l'impact de cette taxe, il est mesurable et il est extrêmement lourd pour l'ensemble des consommateurs.
Sollicitée par RFI, la ministre de l'Économie et des Finances, Rinj Rabarniri-Narson, défend le choix du moindre mal et d'ajouter « nous gagnerions six fois plus en taxant le riz ou les médicaments ». Sur les réseaux sociaux malgaches, les internautes ne cessent pourtant d'exprimer eux aussi leurs inquiétudes. Le mobile money s'est imposé ces dernières années comme un service incontournable dans le pays. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Et puis les Comores se préparent à une première, pas dans l'immédiat, mais en 2027, quand l'archipel organisera pour la première fois les Jeux des îles de l'océan Indien. Hier, le président comorien a installé le comité d'organisation, comité qui ne devrait pas manquer de travail. À Moroni, Abdallah Mzembaba.
L'État doit finaliser une convention avec la Chine.